la Sangha est invitée à retourner à sa respiration afin que l'énergie de la pleine conscience puisse nous rassembler comme un organisme, coulant comme une rivière, sans plus aucune séparation. Puisse la Sangha tout entière respirer comme un seul corps, écouter comme un seul corps, chanter comme un seul corps, transcendant les frontières d'un soi illusoire, nous libérant ainsi des complexes de supériorité, d'infériorité et d'égalité.
From the depths of understanding, a flower of eloquence blooms, the bodhisattva's
practice and Cher Sangha, nous sommes le 1er décembre, l'an 2013. Nous sommes dans la salle de méditation de l'eau tranquille du hameau du Haut pendant la retraite d'hiver, l'an 2013, l'an 2014. Nous savons que dans le christianisme, il pose la question, Dieu est-il une personne? Si Dieu n'est pas une personne, comment pouvons-nous lui faire des prières? Ce serait très difficile. Et c'est une grande question dans le christianisme. Si Dieu est une personne ou pas une personne. Alors, à la fin, environ la fin du XXe siècle, il y a eu des théologiens qui ont dit que même si Dieu n'était pas une personne, mais il n'est pas moins une personne. Et cette phrase est un peu compliquée. Dieu n'est pas une personne, mais pas moins, il n'est pas moins d'une personne. Il n'est pas moins qu'une personne. C'est-à-dire, ils arrivent à la notion que Dieu n'est pas seulement une personne. C'est un grand pas. Dans le bouddhisme, nous avons l'idée de l'être humain. L'être humain est ignorant. L'être ordinaire souffre et le Bouddha est un éveillé. Il ne souffre plus. Et en général, on pense que l'être ordinaire est différent que le Bouddha. Nous avons la tendance à croire qu'une fois devenu Bouddha, on n'est plus l'être ordinaire. Mais cette vue n'est pas correcte selon le bouddhisme Mahayana. Parce que selon la vision du Mahayana, s'il n'y avait pas l'être ordinaire, il n'y aurait pas l'éveillé. C'est pour ça que nous avons l'enseignement Shanfarbakni, c'est-à-dire l'être ordinaire et le Bouddha ne sont pas deux identités séparées. L'un ne peut pas exister à l'extérieur de l'autre ou sans l'autre. L'être ordinaire et le Bouddha ne sont pas deux réalités séparées. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Si le Bouddha existe, c'est grâce à l'être ordinaire. Sans l'être ordinaire, il n'y aurait pas de Bouddha. C'est pour ça, l'être ordinaire et le Bouddha sont une paire d'opposés. Et les deux, sur l'apparence, ça s'oppose, mais en réalité, l'un s'appuie sur l'autre pour exister, comme la boue et le lotus. Sans la boue, il n'y aurait pas de lotus. Et cet exemple est facile à comprendre. D'après l'enseignement de la coproduction conditionnée, alors tout intérêt, par exemple, l'être humain, en regardant l'être humain, nous voyons les éléments non humains, c'est-à-dire ces éléments sont la terre, les cailloux, les rochers, les minéraux, les arbres, les herbes, les animaux. Il y a la terre, l'eau, le feu, l'air. Et puis, ces choses-là, avec le temps, avec les conditions, ces éléments donnent naissance aux arbres, aux végétations, et puis aux animaux, et puis ensuite, les humains. Alors, en regardant l'être humain, nous voyons tous ces éléments. Et si nous enlevons les minéraux, les arbres, les animaux, alors l'être humain n'existe plus. C'est pour ça, l'être humain est également les minéraux, également les arbres, également les animaux, parce que sans tout ça, l'être humain ne serait pas là. On ne peut pas dire que quand nous devenons l'être humain, nous ne sommes plus minéraux, nous ne sommes plus les arbres, nous ne sommes plus les animaux. Non, nous continuons à être minéraux, végétaux et animaux. Les éléments non humains restent toujours en nous. Et c'est pareil pour le Bouddha. Le Bouddha est devenu éveillé, mais les éléments non-Bouddha restent encore chez le Bouddha. Dans le Bouddha, il y a quoi comme élément? En regardant profondément, nous voyons l'être ordinaire dans le Bouddha. La souffrance qui ont été transformées, les afflictions, les souffrances, les ignorances qui ont été transformées. C'est comme quand on regarde le lotus, on voit que le lotus est fait des éléments non lotus. Même si le lotus est devenu lotus, mais dans le lotus, il y a la présence de la boue. Parce que sans ça, le lotus ne peut pas continuer à exister. Le lotus continue à utiliser ses éléments boue pour rester lotus. Et c'est pareil pour les humains. Les humains, si les humains n'ont plus les éléments minéraux, végétaux et animaux, ils ne peuvent pas continuer à être humains. Et c'est pour ça, l'environnement et l'être humain ne sont pas deux réalités séparées. quand il n'y a plus l'être ordinaire, il n'y a plus le Bouddha, quand il n'y a plus les minéraux, les végétaux et les animaux, il n'y aura plus non plus l'être humain. C'est pour ça qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Une fois devenu Bouddha, on dit au revoir pour toujours à l'être ordinaire. C'est pour ça que l'être ordinaire et le Bouddha ne sont pas deux réalités séparées. C'est la vue non dualiste. Et cette vue est appliquée à toutes choses, comme le gauche et le droit. Tant que le droit existe, il y a le gauche. On ne peut jamais dire que le droit peut exister sans le gauche. Et le Bouddha et l'être ordinaire sont pareils. L'être humain, les minéraux, les végétaux et les animaux sont pareils. Sans l'un, l'autre n'existerait pas. Dans le Bouddha, il y a le bonheur. Dans le Bouddha, il y a la vision profonde. Dans le Bouddha, il y a l'éveillé. L'éveil est le contraire des afflictions. La vision profonde est le contraire de l'ignorance. Et le bonheur est le contraire de la souffrance. Mais selon la vision profonde, grâce au regard profond, tout est impermanent. Non seulement la souffrance est impermanente, mais le bonheur est également impermanent, n'est-ce pas? Il n'y a que la souffrance qui est impermanente, le bonheur aussi. Non seulement les afflictions sont impermanentes, mais l'éveil est impermanent aussi. Même quand on est éveillé, et si on ne continue pas à pratiquer, l'éveillé va devenir d'autres choses. Il ne faut pas croire qu'une fois qu'on est éveillé, on est éveillé pour toujours, parce que l'éveil est aussi impermanent. Parfois, on est éveillé, mais on ne nourrit pas cet éveil. Et puis cet éveil, elle devient flou. Et il y a les choses qu'on sait très 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 bien, mais on se comporte exactement comme si on ne le savait pas. Et c'est pour ça que le Bouddha est aussi impermanent et le Bouddha est non-soi également. Et si nous continuons à être Bouddha, il faut continuer à utiliser les éléments comme souffrance, affliction, ignorance pour produire le bonheur, l'éveil et la vision profonde. C'est pour ça qu'il y a la question, est-ce que le Bouddha doit continuer à pratiquer? Cette question est très simple mais très importante. Parce que la plupart d'entre nous, 99% d'entre nous, nous croyons qu'une fois devenu Bouddha, on n'a plus besoin de pratiquer parce qu'on est déjà devenu Bouddha, ça sert à quoi de pratiquer? Quand on devient Bouddha, on a l'éveil, on a la joie, le bonheur, on a la vision profonde. Mais la vérité, c'est que le Bouddha a continué à pratiquer, la marche méditative, la méditation assise, la respiration consciente, parce que l'éveil, le bonheur, la vision profonde sont impermanentes. Alors si le Bouddha veut les nourrir, il doit continuer à pratiquer, il continue à utiliser la souffrance, les afflictions et l'ignorance pour produire le bonheur, l'éveil et la vision profonde. C'est comme le lotus, il est devenu lotus, mais il ne peut pas sortir de la boue, il doit continuer à rester avec la boue pour rester lotus. L'ignorance et l'éveil sont pareils. dans le bouddhisme du Mahayana, bien sûr, le Bouddha peut avoir la forme d'un être humain, comme le Bouddha Shakyamuni. Mais nous savons que l'être humain a apparu dans l'histoire de la vie sur cette planète Terre et très tard, plus tard que toutes les autres espèces. Et donc, avant le Bouddha Shakyamuni, il n'y avait pas de Bouddha. Avant l'existence du Bouddha, il n'y avait pas l'éveil, il n'y avait pas le bonheur, il n'y avait pas la vision profonde. Mais si, avant la naissance du Bouddha, il y avait tous ces éléments, mais sous d'autres formes. Maintenant, posons une question très simple. Est-ce que le Bouddha peut être reconnu dans d'autres formes, c'est-à-dire sous la forme non humaine? Alors, le Sutra du Diamant a clairement dit que dès qu'il y a la forme, il y a la tromperie. Si vous êtes attaché à la forme humaine, vous ne verrez pas le Bouddha. Le Bouddha n'est pas seulement un être humain. Et le Sutra du Diamant a clairement dit que si vous cherchez le Bouddha à travers la forme, l'apparence, les signes ou le son, vous ne le trouverez pas. Et il récite Céline en sino-vietnamien. Quelqu'un qui cherche le Bouddha à travers les images et les sons, alors cette personne va sur le mauvais chemin et ne trouvera jamais le Bouddha. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous attacher à la forme. Le Bouddha peut être une planète comme la planète Terre. Notre planète Terre est un Bouddha parce que dans la planète Terre, il y a la vision profonde, il y a l'éveil, il y a plein de vertus. Et ce Bouddha est une mère. Le Bouddha n'est pas seulement la terre. Dans le christianisme, on pense souvent à Dieu comme un homme, mais pas une femme. Mais dans le bouddhisme, il y a Bouddha femme. Et la terre est un Bouddha femme, est une mère. Mère de qui? Mère des Bouddhas qui sont sous la forme humaine, et c'est la mère des autres Bouddhas sous d'autres formes. Par exemple, un pin ou une rose est aussi un Bouddha, et non seulement l'être humain devient le Bouddha pour enseigner, mais le pin peut enseigner, le pin enseigne. La rose est en train d'enseigner, ils enseignent l'impermanence, le non-soi, les cinq énergies, les cinq bases d'énergie, les sept facteurs d'éveil, etc. Si on regarde avec l'œil du Mahayana, on voit le Bouddha partout. On voit le Bouddha dans une rose, en tant que rose, en tant que pain. Et c'est pour ça, si nous le voyons, ce n'est pas difficile pour nous de reconnaître que notre planète Terre est un grand bodhisattva. C'est le bodhisattva qui rafraîchit, ou le soleil qui est un Bouddha. Et nous ne sommes pas attachés, nous ne sommes pas emprisonnés dans la forme. Et c'est devenu beaucoup plus facile à reconnaître un Bouddha. Nous avons la tendance à discriminer quand nous parlons du lotus et de la boue. Nous aimons le lotus et nous n'aimons pas la boue. Mais la vérité, c'est que sans la boue, il n'y aurait pas de lotus. Alors, non seulement dans le lotus, il y a la nature du Bouddha, mais dans la boue, il y a aussi la nature du Bouddha. Et dans le Sutra Prajnaparamita, a clairement dit que la nature du Bouddha n'est ni pure ni impure, ni produit, ni détruit. C'est pour ça qu'il faut avoir l'œil de la non-forme, animita en sanskrit, pour reconnaître la présence du Bouddha. Le Bouddha n'est pas seulement sous la forme d'un être humain, il peut avoir une planète, la planète Terre, une fleur, un caillou, et c'est pour ça, dans le sutra, il est dit que tous les êtres ordinaires ont la nature du Bouddha. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte, il faut enlever la barrière, la frontière entre le Bouddha et l'être ordinaire. Et quand, avant de toucher la terre devant le Bouddha, nous avons appris qu'il faut regarder profondément la nature de la coproduction conditionnée du Bouddha, nous chantons « Celui qui s'incline et celui devant lequel il s'incline » la nature du vide. Devant le Bouddha, nous lui disons « Cher Bouddha, vous êtes vide comme moi. Vous êtes fait des éléments non-vous, comme le lotus. Il est fait des éléments non-lotus, alors c'est pareil pour le Bouddha. Grâce à la souffrance, à l'ignorance que le Bouddha est devenu Bouddha, comme le lotus, grâce à la boue, il est devenu le lotus. » Alors je vous vois comme ça, c'est pour ça que je me vois en vous. Et en regardant le Bouddha, nous voyons la nature de la vacuité chez le Bouddha et nous voyons que le Bouddha comprend tout. Il n'a pas seulement la vision profonde, la compassion, l'éveil et le bonheur. Il a tout. Et en nous regardant, nous voyons que même si nous sommes êtres ordinaires, nous avons aussi la nature du Bouddha. Et nous voyons en le Bouddha et nous voyons le Bouddha en nous. Et après avoir vu ça, nous touchons la terre devant le Bouddha. Et là, il y a vraiment la communication entre nous et le Bouddha. Si nous voyons que nous sommes seulement nous et le Bouddha, alors il n'y a pas la communication. Il faut enlever cette barrière entre nous deux pour toucher la terre de manière efficace. Et ainsi, nous pouvons toucher la nature du Bouddha en nous. Si nous disons que le Bouddha est différent et nous sommes différents, alors pour toujours, nous ne restons que nous-mêmes. Le Bouddha est toujours le Bouddha et le Bouddha n'est jamais en nous et nous ne sommes jamais en Bouddha. Et il n'y a pas de communication entre les deux. Et nous chantons la communication est parfaite. Et c'est difficile à décrire, à parler de cette communication. Si nous sommes emprisonnés encore dans la vue discriminante. Dans le sutra du diamant, il est clairement dit que nous avons une notion du soi. Nous avons une notion de l'être humain, une notion de l'être ordinaire, et ce sont les notions à transcender. En regardant moi-même, il faut voir les éléments non-moi. En regardant l'être humain, il faut voir les éléments non-humains. Et en regardant l'être ordinaire, il faut voir les éléments non-être humains. Un non-être ordinaire. C'est ce que le sutra du diamant nous enseigne. Il faut enlever ces quatre notions. Notion du moi, de l'être humain, de l'être ordinaire et de la durée de vie. Pardon, de l'être vivante au lieu de l'être ordinaire. Et une fois qu'on a enlevé la notion de la durée de vie, nous devenons éternels. Nous ne sommes pas seulement dans ce corps physique pendant un certain temps. Maintenant, il y a une autre barrière à enlever. C'est la barrière entre l'être animé et l'être inanimé. L'être animé, c'est-à-dire l'être vivant, et l'être inanimé, c'est-à-dire ce qui n'est pas vivant comme la terre, les inanimate being en anglais. Un poète français a écrit « Objet inanimé, avez-vous une âme ?» Objets inanimés, avez-vous une âme? Et un musicien vietnamien a écrit la même chose. Comment sais-tu que les cailloux, les rochers n'ont pas mal? Ils ont besoin les uns des autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que eux, ils sont inanimés, ils n'ont pas d'âme. Si on étudie l'histoire de la vie, on apprend que la planète Terre était au début, sur la planète Terre, il y avait, au début, il n'y avait que les êtres inanimés, les objets inanimés. Et puis, après, il y a eu la naissance des êtres animés, des êtres unicellulaires, grâce aux foudres ou quelque chose comme ça, il y a eu la naissance des êtres unicellulaires dans l'eau, et puis ces êtres sont devenus des êtres multicellulaires, et puis ces êtres sont montés sur terre pour devenir les herbes, les plantes, et puis les animaux, et puis les êtres humains. C'est pour ça qu'il n'y a pas de barrière, de frontière entre les êtres inanimés et les êtres animés. Et les sciences d'aujourd'hui ont découvert ce qu'on considère comme les êtres, les objets inanimés, comme les atomes, les électrons. Ils ont le savoir en eux. Et c'est facile à comprendre. Par exemple, on prend une graine de maïs, en la regardant, on ne peut pas dire que la graine de maïs est inanimée, parce qu'en elle, il y a la conscience, il y a le savoir, il y a les vertus, les talents, le savoir. Il suffit de la semer dans la terre, et en 7 jours, elle sait germer, pour devenir une petite plante. Et si on continue, et si elle continue, elle va pousser, elle va faire pousser des feuilles, des fleurs, pour devenir un maïs. C'est pour ça que c'est faux de dire que la graine de maïs est inanimée. Nous sommes faits des objets, des éléments inanimés, mais entre inanimés et animés, il n'y a pas de frontières. C'est pour ça que les cailloux, les minéraux ont également la nature du Bouddha. Non seulement le chien a la nature du Bouddha, dans le Zen, on pose la question, est-ce que le chien a la nature du Bouddha? Oui, mais les minéraux aussi. C'est pour ça qu'il faut chercher à transcender l'idée que le Bouddha n'est qu'une personne. Nous avons une méditation guidée assez bien. C'est la méditation, j'invite le Bouddha à respirer, j'invite le Bouddha à s'asseoir. Je ne sais pas si vous mettez en pratique cette méditation. Elle est extraordinaire et Thay la met en pratique souvent. On s'assoit et puis on se dit, J'invite le Bouddha à respirer. J'invite le Bouddha à s'asseoir. Et le Bouddha ici n'est pas une réalité à l'extérieur de nous. Cher Bouddha, prenez ma colonne vertébrale pour vous asseoir. Cher Bouddha, prenez mes poumons pour respirer. Cher Bouddha, je vous invite à respirer, je vous invite à vous asseoir. Parce que le Bouddha n'est pas un soi. Chaque fois qu'on respire en paix, dans le bonheur, alors il y a le Bouddha. Chaque fois qu'on s'assoit dans la solidité, dans la liberté, il y a le Bouddha. C'est pour ça que le Bouddha n'est pas une personne. Il n'est pas seulement une personne. Si nous croyons que le Bouddha est une personne, c'est faux. Dès qu'il y a la stabilité, la liberté, il y a le Bouddha. Je vous invite à respirer, cher Bouddha. Je vous invite à vous asseoir. Dès que le Bouddha s'assoit, il s'assoit bien droit, très confortablement. Et dès que le Bouddha respire, il respire profondément, tranquillement, en pleine conscience. Alors la première phrase, c'est « Je vous invite, cher Bouddha, à respirer. » On lui donne nos deux poumons pour qu'il respire. « Cher Bouddha, je vous invite à vous asseoir. » Et on lui donne sa colonne vertébrale pour qu'il s'assoie. Et on commence à respirer, à s'asseoir comme ça. Et là, on n'a plus l'idée que le Bouddha est à l'extérieur de nous. Si le Bouddha respire avec ses poumons, avec nos poumons, et s'assoit avec notre colonne vertébrale, alors le Bouddha est très proche à nous. Le Bouddha respire légèrement, et je respire légèrement, parce que le Bouddha utilise nos poumons pour respirer, le Bouddha utilise notre colonne vertébrale pour s'asseoir, alors si le Bouddha respire légèrement, je respire légèrement aussi. C'est très bien. Et on ne voit plus que le Bouddha à l'extérieur de nous. Le Bouddha respire légèrement. Le Bouddha s'assoit tranquillement. Et moi, je respire légèrement. Je m'assois tranquillement. Et si ça vous plaît, si vous vous sentez bien, alors vous continuez à respirer comme ça. Les deux premières phrases, c'est « Je vous invite à respirer légèrement, cher Bouddha. Je vous invite à vous asseoir avec mon dos. » Et au bout de deux minutes, on devient un avec le Bouddha. Et puis on continue. Le Bouddha respire légèrement, le Bouddha s'assoit tranquillement. Je respire légèrement aussi, je m'assois tranquillement. Et cette méditation nous apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Le Bouddha respire légèrement et j'ai la chance de respirer légèrement aussi. Et puis on fait un autre pas, c'est-à-dire la troisième phrase. Le Bouddha est la respiration légère. Le Bouddha est l'assise tranquille. Nous cherchons le Bouddha à l'extérieur de la respiration légère, à l'extérieur de l'assise tranquille. Alors non, si vous n'avez pas ces éléments, vous n'êtes pas le Bouddha. C'est pour ça que le Bouddha n'est pas un corps physique. Le Bouddha est la présence de la respiration légère et de l'assise tranquille. Le Bouddha est la tranquillité. Où trouver le Bouddha? Si nous ressentons la respiration légère et l'assise tranquille, alors c'est le Bouddha. Le Bouddha respire légèrement, le Bouddha s'assoit tranquillement. Et je respire légèrement, je m'assois tranquillement. Et le Bouddha est la respiration légère, le Bouddha est l'assise tranquille. Et je suis pareil, je ne suis pas un moi séparé. Je suis la respiration légère et l'assise tranquille. Alors, il n'y a plus de frontières entre moi. Le Bouddha comme moi, nous sommes devenus un parce que tous les deux, nous sommes la respiration légère et l'assise tranquille. Alors nous sommes libres. Le Bouddha est la respiration légère. Le Bouddha est l'assise tranquille. Je suis la respiration légère. Je suis l'assise tranquille. Et puis un autre pas pour abattre l'arbre du soi. Il n'y a que la respiration légère. Il n'y a que l'assise tranquille. Personne respire légèrement et personne s'assoit tranquillement. Il y a le Bouddha et moi, mais le Bouddha et moi, nous sommes les deux, la respiration consciente et l'assise tranquille. On n'a pas besoin de soi pour avoir la respiration légère et l'assise tranquille. Et quand on arrive jusque-là, on transcende le petit soi. Il n'y a plus que le petit soi qui respire et qui s'assoit. La vérité, c'est qu'il y a simplement la respiration légère et l'assise tranquille. On n'a pas besoin de petits soins pour faire tout ça. Par exemple, le vent souffle ou le nuage flotte. Où la pluie tombe. Le vent souffle, bien sûr. Le vent n'a plus besoin de souffler parce que s'il ne souffle pas, alors il n'est pas vent. Et si la pluie ne tombe pas, ce n'est plus la pluie. En regardant profondément, nous voyons un soi qui souffle. En regardant profondément, on voit qu'il n'y a plus le soi qui souffle, qui pleut. Quand il pleut, il n'y a pas de soi pour pleuvoir. Il n'y a que la respiration légère. Il n'y a personne qui respire. Le Bouddha et moi, comme des petits soies, il n'y en a plus. Il n'y a plus que la respiration légère. Par exemple, si nous regardons notre planète Terre, nous voyons que la Terre respire légèrement aussi. La terre s'assoit tranquillement aussi. C'est pour ça que la terre est également le Bouddha. On n'a pas besoin d'imaginer que le Bouddha. On n'a pas besoin d'imaginer le Bouddha sous la forme d'un être humain. Quand il y a la tranquillité, quand il y a la paix, la liberté, le bonheur, il y a le Bouddha. Et le Bouddha, pas en tant qu'un petit soi. C'est pour ça que quand on arrive à la cinquième phrase, c'est très clair que la paix est dans la respiration légère et le bonheur est dans l'assise tranquille. Et on n'a pas besoin d'une personne qui est en paix ou qui est heureux. Même s'il n'y a pas ce petit soi, pas cette personne, il y a quand même la paix et le bonheur. La paix est la respiration légère, le bonheur est l'assise tranquille. En quelques mots, il n'y a que la respiration légère et l'assise tranquille. Et grâce à ça, il y a la paix et la liberté. et le bonheur. Et on n'a pas besoin de petits soins, on n'a pas besoin de Bouddha ou le moi. Et c'est pour ça, pour trouver le Bouddha, on n'a pas besoin de retourner en Inde. Il y a 2600 ans, on n'a pas besoin d'aller au temple, parce que dans le temple, on ne voit que les statues du Bouddha en bronze ou en jade. Parce que si nous sommes libres de la forme, de la vue de la forme qui dit qu'il faut 32 beautés pour être Bouddha. Si nous cherchons le Bouddha sous une forme, alors on ne le trouvera pas. Si nous sommes assis tranquillement et nous respirons légèrement, s'il y a la paix et la liberté, alors il y a tout de suite le Bouddha. Et c'est le vrai Bouddha, pas le Bouddha en bronze ou en pierre. Et exactement grâce aux afflictions, aux agitations, aux perturbations que nous cherchons le Bouddha, et à partir de ces agitations, ces perturbations, ces tristesses, ces afflictions que nous créons, la liberté, la paix, le bonheur. Comme grâce à cette boue, on peut cultiver, planter des boues. C'est pour ça qu'il ne faut pas fuir la souffrance, les afflictions. Si nous savons comment faire, ces afflictions, cette souffrance, on peut les utiliser pour créer le bonheur, la vision profonde. C'est pour ça la question simple. Une fois devenu Bouddha, est-ce qu'on a besoin de pratiquer encore? C'est une très bonne question. Devenu Bouddha, cela signifie qu'on a la liberté, le bonheur, l'éveil. Et si on ne continue pas à pratiquer, tous ces éléments vont se transformer en d'autres choses. C'est pour ça qu'il faut les nourrir, les cultiver avec la pratique. Et il faut utiliser les éléments comme souffrance, affliction. Et dans le Mahayana, il est dit clairement que les afflictions sont l'éveil. Et le nirvana est la naissance et la mort. Le nirvana et le monde des naissances et des morts sont une paire, comme le gauche et le droit. C'est pour ça, si nous croyons qu'une fois on est dans le nirvana, il n'y a plus la naissance et la mort, alors on est emprisonné dans la vue dualiste. C'est pour ça, il y a un maître zen a répondu à la question de son étudiant, où trouver le nirvana? Où trouver le nirvana? Il a répondu, dans le monde des naissances et des morts. Ce sont les naissances et les morts, mais si on les regarde profondément, on trouve le nirvana. C'est pour ça que notre pratique quotidienne doit être réaliste, pratique, avec la respiration consciente, les pas en pleine conscience. Avec ça, on peut créer la paix, le bonheur. Ce qui n'est pas la paix et le bonheur, à partir de ces éléments, on peut créer la paix et le bonheur. Et il faut toujours utiliser la boue pour cultiver le lotus et la souffrance, les afflictions pour l'éveil. C'est pour ça que créer le bonheur, c'est lié à au travail de gérer la souffrance. Même si ce sont deux choses, mais en réalité, c'est une seule. C'est pour ça qu'il ne faut pas fuir la souffrance. Il faut la saisir et la transformer. Où on tombe, on se relève au même endroit. Aujourd'hui, Thaï a besoin de son cahier. Nous allons étudier aujourd'hui comment notre alaya travaille, la fonction de l'alaya. Sortez les 30 versets. Nous allons commencer avec le troisième verset. Les 30 versets. Troisième verset. D'habitude, nous ne sommes pas conscients des appropriations d'Alaya, de ce qui repose dans l'Alaya et de la manifestation pure à partir d'Alaya, le contact, l'attention mentale, les sensations, les cognitions et les intentions sont les propriétés constantes d'Alaya. ce mot bio ici pour traduire Vijñapti, utiliser ce mot a été utilisé par Maître Wingjiang, et bio signifie manifestation pour être perçu. Ça se manifeste pour être perçu. Par exemple, sœur Duihuan a le talent de peindre, mais en la regardant, nous ne voyons pas ce talent. Une fois qu'elle s'assoit pour peindre, et puis nous voyons ce talent et nous percevons parce que ce talent se manifeste dans la peinture, dans les dessins, pour être perçu. Et vie en sanskrit, ce préfixe signifie pour être perçu. Ça se manifeste pour être perçu. Et Maître Wingjiang l'a traduit comme le mot Liu. En sino-vietnamien, en chinois. Et au Vietnam, en général, on étudie que on ne sait pas, on peut traduire comme on ne sait pas, on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? En général, les moines vietnamiens disent qu'on ne connaît pas on ne connaît pas les sensations, les cognitions et les intentions. Et ils considèrent ces trois choses comme séparées. Alors c'est upadhi, ces trois choses. Sensations. Et puis sthana, selon la grammaire du sanskrit, quand les trois noms vont ensemble, upadhi, sthana et vijñapti, c'est la forme valva. Mais quand il y a un nom qui est l'objet d'un autre, le complément d'objet d'un autre nom, alors selon le principe, il faut traduire comme on ne peut pas connaître la manifestation de l'upadhi, de sthana et de signifie manifestation. La huitième conscience se manifeste pour qu'on la voie, et ça se manifeste en tant que Tiaptha. Tiaptha ici signifie recevoir et maintenir. Parce que l'alaya, son nom est le dépôt. Elle reçoit des graines et elle les préserve, elle les garde. Par exemple, quand nous apprenons l'anglais ou la musique, les graines de la musique et de la langue tombent dans notre alaya et l'alaya reçoit ces graines pour les préserver, les garder, pour ne pas les perdre. Alors ici, c'est recevoir et maintenir et garder. Et recevoir et maintenir quoi ? Des graines. Et ensuite, recevoir et maintenir notre corps physique. Et cet environnement, l'environnement de ce corps physique. Non, non. Ça reçoit les cinq agrégats. Notre corps physique est la base des cinq agrégats. Alors, l'alaya reçoit notre corps physique qui se compose des cinq agrégats et des semences. Mais ces graines, quelles sont ces graines? Ce sont les formes, par exemple. Nous avons une sœur en Thaïlande et c'est la première fois qu'on la voit, qu'on voit sa forme. La première fois qu'on la voit, elle est devenue Monia. Et la première fois qu'on la voit, et cette image tombe dans notre alaya, dans notre conscience du tréfonds. Ou bien la forme d'un pin ou d'un oiseau ou d'une colombe, cette forme tombe dans notre alaya et l'alaya reçoit ces formes et les maintient. Et la nuit, quand nous rêvons, ces formes remontent en nous et nous revoyons ces formes dans le rêve. Alors, donc, ces formes restent là, dans notre conscience. Et puis, il y a les semences, des noms, des mots. Par exemple, nous voyons un gâteau, nous voyons la forme du gâteau, mais nous ne connaissons pas son nom. Et puis on dit que ça, c'est un bavarois, par exemple. Alors, ces noms, ces mots sont également des semences qui tombent dans notre alaya. Et en général, la forme est accompagnée par un nom. Et dès qu'on voit cette forme, le nom, son nom apparaît. Et donc, dans notre conscience du tréfonds, il y a plein d'images et plein de noms. Si ça y tombe une seule fois, alors cette graine est encore petite. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile pour nous de nous en souvenir. Nous avons entendu son nom, nous avons vu son visage, mais seulement une fois, et après on doit chercher son nom, on doit c'est plus difficile à se souvenir. Mais si on la voit plusieurs fois, on entend son nom plusieurs fois, alors ça devient plus facile. C'est l'imprégnation. Et dès qu'on voit son visage, tout de suite, le nom, son nom apparaît. It may be five. Les cinq organes sensoriels ou les cinq agrégats. Car c'est aussi agrégat. Dans ce cas, je ne sais pas. Alors, et puis, il y a la distinction, ceci n'est pas cela et cela n'est pas ceci. Ce Batnim n'est pas ce Tiusu et ce Tiusu n'est pas ce Batnim. La réalité n'est pas. La réalité, c'est que ceci est dans cela et cela est dans ceci. Mais notre esprit fait la discrimination. On dit que si c'est le gauche, alors ce n'est pas le droit. Et si c'est le droit, ce n'est pas le gauche. Mais la réalité, c'est l'un et dans l'autre. Alors, ici, on parle de l'habitude de discriminer ou de distinguer. Et c'est la perception erronée de faire la discrimination entre la naissance et la mort, l'être ordinaire et le Bouddha. Et tout ça, nous avons imprégné notre alaya, ces perceptions fausses. Alors ce sont des semences que nous recevons tous les jours et que nous les gardons dans notre conscience du tréfonds. Et ensuite, ça dépend. Et puis, notre alaya reçoit aussi les cinq agrégats, les cinq organes sensoriels. Ça dépend de notre karma que nous. Tout se manifeste à partir de notre conscience du tréfonds. Et notre alaya reçoit ce corps physique avec les cinq organes sensoriels et il doit les maintenir pour qu'il reste vivant. Parce que sans l'alaya, ce corps et ses cinq organes sensoriels deviennent un cadavre. Même si on a les organes sensoriels, mais sans l'alaya, c'est juste un cadavre. Et c'est pour ça l'énergie qui maintient la vie dans notre corps, alors c'est l'alaya. Et c'est pour ça qu'on nous avons dit que si l'organe sensoriel est en contact avec l'objet des sens, et la conscience, ça produit le contact. Ça produit le contact et sans l'alaya, il n'y a pas le contact, il faut l'alaya. Et l'alaya maintient ce contact. Et l'alaya partage tout ce qui est comme le bonheur, la paix, les dangers. Alors, tout ça, c'est recevoir et maintenir. la manifestation de la réception et du maintien. Et puis ensuite, nous avons l'environnement. Si nous avons un corps et des organes sensoriels, alors nous avons son environnement, leur environnement. L'emplacement, la place. Et ça dépend de notre karma du passé que nous avons une relation avec cet environnement. Par exemple, ici, c'est le village des pruniers à la campagne en France. Et nous avons un karma collectif. Et à cause de certaines graines, de certaines habitudes, nous sommes assis ensemble ici. Alors, c'est une manifestation de l'Alaya. Nous ne sommes pas dans une grande ville. Nous ne nous amusons pas dans d'autres activités, mais nous venons tous ici pour être ensemble. Alors, c'est l'emplacement, le lieu où nous restons, c'est l'emplacement. Alors, si nous sommes des moines et des moniales heureux, alors nous continuons à vivre ici parce que ici nous sommes nourris. Nous restons ici, nous vivons ici pour nourrir la fraternité, notre bonheur, et ce lieu est notre emplacement. Mais si en nous, parmi nous, il y a une personne qui pense à un autre mode de vie, une personne qui veut retourner à la vie laïque pour se marier, alors ces graines, ces habitudes poussent cette personne à quitter ce lieu pour aller ailleurs. Et ainsi la personne perd la sangha, perd la communauté. Et tout ça, ça vient de son karma. Continuer à vivre ici avec la sangha ou quitter ce lieu, alors c'est sthana, l'emplacement, quitter l'emplacement. Et tout ça, c'est le karma qui pousse. Et l'emplacement est individuel et collectif. Alors pour nous, des moines, des moniales et des laïcs pratiquants qui vivent ici, nous avons une relation, une connexion plus étroite avec le village des pruniers. Les retraitants qui viennent ici, qui peuvent venir ici juste une fois par an, alors leur relation avec le village des pruniers est moins. Alors c'est pour ça, cet emplacement, notre emplacement est différent pour ceux qui viennent ici une fois par an. C'est pour ça, si nous avons une relation, une connexion plus étroite avec cet emplacement ou non, cette connexion est différente pour chaque personne. C'est pour ça, cet emplacement est à la fois collectif et individuel. C'est pour ça, notre environnement est également notre karma. Parce que le karma mène à l'environnement. Pardon. Le karma mène à la rétribution. Et la rétribution a deux parties. L'environnement et et la personne. Notre personne reste dans cet environnement et notre personne a semé, notre corps a semé des graines dans le passé pour avoir cet environnement. Par exemple, il y a les jeunes qui sont laïcs, mais en eux, il y a déjà des semences du désir de devenir moine et moniale. Et quand ils rencontrent les moines et moniales, et puis il y a les conditions qui se rassemblent, et puis un jour, ils deviennent moines et moniales et ils participent à l'emplacement. Alors, il y a toutes les conditions entre nous. Sans ces conditions, nous ne sommes pas ensemble. Par exemple, il y en a qui ont il y a toujours une connexion entre nous. Pour les personnes qui ont une connexion avec la drogue, par exemple, ces personnes ne se trouvent pas ici, ils vont ailleurs. Et puis, les personnes qui aiment la musique vont ensemble. Les homosexuels vont ensemble, c'est-à-dire ils se sentent bien à l'aise ensemble. Ils pensent que les autres font la discrimination et c'est pour ça l'emplacement est collectif, est une manifestation collective. Par exemple, nous venons au village des pruniers et nous avons la méditation marché tous les jours. Nous mangeons végétarien tous les jours. Alors, c'est l'emplacement. Et il y en a qui aiment beaucoup tout ça, qui sont végétariens pendant toute leur vie, qui font la marche méditative tous les jours avec beaucoup de bonheur. C'est parce que dans le passé, nous avons eu ces graines, une certaine connexion, condition et connexion. Et c'est pour ça aujourd'hui nous sommes ici. Et cet emplacement se manifeste à partir aussi de notre alaya. Et ne disons pas, c'est mon alaya. Et on pose souvent la question, est-ce que chaque personne a son propre alaya? Mais d'après la vision profonde du Mahayana, l'individuel et le collectif sont aussi une paire d'opposés. L'un s'appuie sur l'autre pour se manifester et il n'y a rien qui est complètement collectif et il n'y a rien qui est complètement individuel. L'un s'appuie sur l'autre. On peut dire plus ou moins, plus collectif ou moins collectif, mais il n'y a rien qui est complètement ou seulement collectif ou individuel. Que ce soit un petit caillou ou une feuille, en regardant cette petite chose, on voit tout le cosmos. L'individuel se trouve dans le collectif et le collectif se trouve dans l'individuel. Et c'est pour ça qu'il faut traduire que la manifestation de l'alaya, la manifestation de la réception et du maintien, nous ne pouvons pas percevoir, nous ne pouvons pas percevoir, parce que c'est indescriptible et ça se passe très vite. C'est inconcevable. c'est-à-dire l'imprégnation des semences. Comment ça se fait? C'est merveilleux, c'est extraordinaire, sans qu'on le sache. Par exemple, ce jeune homme voit cette jeune femme pour la première fois. Son image entre dans son alaya et cette nuit-là, il ne peut plus dormir. Juste une fois, il ne veut pas ça. Et pourtant, ça se passe. C'est une histoire vietnamienne. Ce jeune homme, dès qu'il la voit, il n'arrive plus à dormir. Et puis cette graine grandit chaque jour en lui. Et les bébés, les enfants, en France, ils n'apprennent jamais le français, mais ils parlent couramment français. C'est parce qu'ils entendent les adultes parler et puis ça entre en eux. C'est l'imprégnation inconcevable. C'est indiscutable. Et la manière dont l'alaya reçoit et se manifeste est indescriptible, est inconcevable, indiscutable. Notre disque dur, nous pouvons comprendre le disque dur de l'ordinateur parce que c'est nous qui introduisons les datas dans le disque dur. Mais notre alaya est différent. Il est indescriptible, il est inconcevable. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas connaître sa fonction. Et Thaï a modifié un petit peu la traduction anglaise. Alors, ces manifestations comme appropriation et emplacement, on ne peut pas connaître intellectuellement, on ne peut pas connaître ces manifestations comme appropriation et emplacement. Ça entre dans l'alaya de manière inconcevable. Et puis à partir de l'alaya, ça se manifeste et ces manifestations sont inconcevables également. Bon, ça suffit pour aujourd'hui, sinon vous allez avoir mal à la tête.